Vous êtes à l'écoute de Radio Royan Vercors sur 93 MHz.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes pour la réalisation de ce magazine touristique à Rochechinard, un décor surtout la vue imprenable depuis le parvis de cette maison mémoire avec nos invités que je vais présenter dans quelques instants. Auparavant, à l'occasion de cet indicatif du magazine touristique, vous rappelez les partenaires qui nous aident pour la réalisation de celui-ci au cours de cet été 2023, je pense. La grotte de Chouranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire en Royan, puis le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance dans cette même commune, et également le musée de la préhistoire à Vassieux, mais également bien sûr, on parle de musée, c'est la maison musée de Rochechinard avec l'association des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard, le musée de l'eau de Pont-en-Royan et bien sûr également du côté des festivals, le festival des chapelles en Royan-Vercors, Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye et les offices de tourisme du Royan-Vercors. Et Indians Valley aussi à Bourg-Arbary. Merci à mes invités qui sont juste à côté de moi. C'est très agréable, hein, avec cette petite table qui domine aussi l'église de Rochechinard. Un petit écrin, c'est toujours ce qui rassemble aussi le public pour l'exposition traditionnelle et annuelle avec cette année. Une multiplicité de choses à découvrir et beaucoup aussi d'intentions de la part de Géraldine Koziak, artiste invitée pour cet été 2023. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Et bien sûr le maître des lieux, Jean-Daniel Laforêt, pour orchestrer cette saison et qui a eu aussi beaucoup de tact pour faire naître cette collection de Géraldine au cœur de la maison musée du Royan. Bonjour Jean-Daniel.
Bonjour Patrick, bonjour Radio Royan Vercors et merci d'être là.
C'est un grand plaisir puisque Géraldine, nous avons 10 000 choses à nous dire à l'occasion de cette nouvelle proposition. Vous êtes dessinatrice, écrivaine, plasticienne aussi, on peut vous considérer comme plasticienne puisqu'il y a beaucoup d'art qui croise votre intérêt pour tout ce que vous faites. Vous êtes donc dessinatrice internationale aussi, plusieurs pays ont été l'objet de vos interventions. Et puis également, la région Rhône-Alpes, vous êtes, semble-t-il, assez aussi attaché à cette région. Hein.
Moi, je suis attaché à beaucoup de régions, mais oui, c'est là que je vis pour l'instant. En même temps, je suis en Bourgogne aussi, où j'ai une ferme, donc je suis sur deux territoires pour l'instant.
On a peut-être pu aussi croiser vos œuvres il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, hein, à l'occasion d'une exposition au lieu d'art, la Halle à Pont-en-Royan, vous vous souvenez ?
Oui, bien sûr. Oui. J'ai fait deux expositions, une avec aussi Delphine Ballet, une amie, et Aurélie Pétrel. Delphine aussi qui est de la région et Aurélie qui est aussi dans ce coin-là, pas très très loin. Donc c'était un vrai plaisir aussi de travailler avec Pont-en-Royan, c'était super.
Et à quelques kilomètres de Pont-en-Royan, donc Rochechinard, dans un autre contexte, une assise aussi qui permet de relier vos différents regards artistiques. On peut dire que c'est quelque chose, une croisée finalement d'art, cette maison de Rochechinard, tellement ça prend part à votre intention, à votre travail. C'est Jean-Daniel aussi qui a fait un travail de repérage et qui a permis de aussi donner une certaine dimension, un écho du travail de Géraldine. Une harmonie artistique entre la maison musée du Royan et le travail de Géraldine, Jean-Daniel.
La maison de la mémoire.
La maison de la mémoire.
Je crois que c'est ça. C'est la mémoire et les collections. 2000 objets de collection, la mémoire. La mémoire qui est portée par les uns pour être transmis aux autres et en faire ce qu'ils veulent. Et voilà, je crois que l'écho était là. Et je me permets de dire que Géraldine Koziak a évoqué le nom de Delphine Ballet. Et c'est grâce à Delphine Ballet que Géraldine Koziak est là. Ça a été la bonne fée qui un jour a décroché son téléphone et m'a appelé disant « J'ai peut-être quelqu'un qui pourrait intéresser et être intéressé par la Maison de la Mémoire. » Et c'est une très belle rencontre. Un lundi brumeux sur le plateau de la Croix-Rousse, en errance à travers le clos Jouve qui était fermé, trouver un lieu où on a bu un thé, qu'on a commencé à parler.
Il y avoir tous ces atomes crochus finalement qui se relient à cette maison mémoire à l'occasion de ces 10 000 choses qui donnent aussi peut-être le coup d'envoi de perspectives aussi un peu similaires dans d'autres lieux. C'est un peu le lancement d'une certaine initiative de collection. On va voir tout cela puisque la maison musée recèle effectivement tout ce qui concerne un peu votre intention des 10 000 choses. On va peut-être parler aussi, qu'est-ce qui a fait aussi l'étincelle de 10 000 choses que vous transposez ici à la Maison Mémoire ?
Oui, alors je peux commencer à dire des 10 000 choses, qu'est-ce que c'est ? C'est un travail autour de l'objet, de la collection. Et c'est arrivé pendant le confinement, premier confinement, à se dire qu'est-ce qui se passe quand on est immobile ? Comment on regarde les choses ? Et on regarde aussi ce qui nous entoure, donc les objets qui m'entouraient. Et puis les collections que j'ai commencé à regarder, les collections de musées, les collections d'endroits qui étaient... on a de la chance aussi, grâce à Internet, d'avoir des collections qui sont numérisées. Donc je pouvais voir tous les objets qui étaient dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et puis j'ai commencé à faire des tableaux autour de ma propre collection. Après, j'ai fait aussi sur les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas sur tous les objets. Je choisis quelques objets et j'en fais un tableau. Et l'idée, c'était de se dire, après ça, après un confinement, comment voir et comment aller voir. C'est-à-dire que j'ai décidé de faire un tour de la région, de tous des musées qui m'intéressaient, des musées que je pouvais, où on pouvait m'indiquer où il y avait des belles collections, mais ça pourrait être aussi des privés, et puis de regarder les objets qui nous parlent, parce que c'est ce que je disais Jean-Daniel, c'était la question de la mémoire, c'est comment les objets nous parlent et comment ils sont déplacés dans le temps. Et ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire on a évidemment des questions d'objets qui sont liés à la colonisation, qui peuvent venir des collections antiques, des choses comme ça, et puis il y a aussi, ce qui m'intéressait, c'est la question de la collection populaire, la collection du patrimoine populaire. Qu'est-ce qui fait sens ? Et là, on a une grande chance, c'est qu'ici, la Maison de la Mémoire, c'est vraiment de se dire, tiens, on a des gens qui ont reconsidéré et reconstruit une mémoire ancienne et aussi d'un patrimoine qui, pour moi, est très important. Donc, voilà un peu comment ça a débuté. Et je fais un petit peu... Là, mon idée, c'est vraiment de faire le tour de la région et d'aller picorer, je veux dire comme ça, dans des collections et puis de faire une exposition. Alors là, c'est la première à Rochessinard qui commence. La prochaine sera au château de Tournon sur Rhône au printemps prochain. Donc on a vraiment, c'est des cycles, je vais en faire 12 par an et avancer comme ça. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que là, on en fait un, on l'expose avec d'autres tableaux et puis après, au fil du temps, on va avoir une collection qui se monte. Il y a des textes aussi à côté qui disent d'où viennent les objets. Et ce qui va être intéressant, c'est comment les exposer. Je voudrais les exposer dans des centres de soins pour jeunes ou dans des EHPAD. Donc on change un peu la donne. On montre plus vraiment dans des musées classiques.
Et ce sont des objets qui ont un caractère remarquable, qui ont aussi un certain sens de marqueur dans des thématiques qui vous habitent particulièrement.
Je pense que l'enfance, là, je le vois en faisant. Mais là, j'ai pris à Rochechinard deux petites poupées qui m'intriguaient, qui étaient très faites à la main par des enfants, qui ont une histoire aussi. Ce qu'il y a aussi de beau dans cette maison de la mémoire, c'est des dons souvent. Donc on peut presque retrouver des familles qui ont donné, où il y a les ancêtres qui ont travaillé le bois, qui ont fait des objets comme ça pour jouer. C'est ce qu'on disait sur la notion paysanne aussi, où on n'avait pas d'argent pour acheter des jouets. Donc on créait ces jouets, soit c'était le père, soit c'était les enfants. Et puis ça servait aussi d'apprentissage, d'éducation sexuelle. Donc on a tout un mélange comme ça, où on voit les choses progresser dans le temps. Et aussi une évolution des mœurs, une évolution de la façon de voir le jouet, de voir... En fait, le jouet, ça rattache beaucoup de choses. Donc ça, je pense que je suis toujours un peu attirée par le jouet, les animaux, les oiseaux, les plantes. Donc c'est un peu un mélange comme ça.
Et après, vous adaptez une certaine interprétation par rapport aux objets que vous choisissez. Il y a un travail qui se fait.
Oui, je recrée presque un paysage. C'est-à-dire, on ne sait pas où elles sont, mais comme je donne une indication, ce n'est pas juste une petite encarte. Je vais même dire pour le prochain musée où se situent les poupées, c'est-à-dire salle 2. Je vais donner des indications comme ça. Non, je pense que la question, c'était... Excusez-moi, je suis partie.
Ben, c'est-à-dire que vous donnez une interprétation des objets que vous choisissez.
Oui, parce qu'en fait, j'ai déjà la proportion. C'est des objets qui vont mesurer. Là, par exemple, les poupées que j'ai, elles font 15 cm. Et là, chez moi, elles font presque 80. Donc, déjà, dans la proportion, on change. C'est presque pour... j'aime beaucoup l'idée de faire apparaître le détail, en fait. Parce que si vous passez dans les salles, il y a des choses où vous n'êtes pas forcément attentif parce que ça ne vous intéresse pas forcément. Et puis, d'un coup, je vous le donne à voir. Mieux que ce qu'il pourrait être. Et c'est dans un petit coin, c'est tout mignon. Et puis, d'un coup, vous voyez tellement d'objets que vous n'êtes plus tout à fait attentif à celui-ci. Et moi, je vous donne une indication sur qui a fait l'objet, parce qu'on a la chance d'avoir des détails, un très beau catalogue qui accompagne toute la collection. Donc, j'ai été aussi regarder, piocher, grâce à Jean-Daniel, évidemment, j'ai tellement un guide qui a été du début, qui m'a ouvert les portes, et avec les bénévoles qui m'ont... ça aussi, c'est un grand plaisir d'arriver, et puis vous êtes entourés, vous êtes accueillis, donc pour moi, c'est ça aussi qui inspire, c'est-à-dire j'entends, j'écoute, on avait des objets en commun, d'autres, les poupées, on les aimait bien les deux, puis après, on a envie de faire plaisir, et puis voilà, c'est un... Et puis, il y avait quand même aussi cette idée de ces poupées, on pourrait penser qu'elles sont africaines. Il y a un moment donné, si on n'était pas là, si je les transporte ailleurs, dans un autre pays... Ils vont se dire, mais d'où ça vient? Parce que si je ne mettais pas la petite mésange, moi, les mésanges sont assez dans plusieurs régions. Donc, c'est ça un petit peu qui m'intéresse. Donc, la composition, évidemment, quand on est artiste, on interprète, on compose, on réinterprète. C'est un peu l'idée de... C'est un jeu, en fait.
Vous avez découvert beaucoup d'objets ici, dans cette maison? Parce que,
ah oui, on en a...
Objets manufacturés, oui. Peut-être qui correspondaient à des tâches bien précises bien ici sûr. Et pas ailleurs.
Bah oui, parce qu'on a toute l'histoire, on a des objets un peu intrigants, on a des objets que je ne connaissais pas. J'ai été fascinée par les assiettes qui sont cassées et agrafées. Par exemple, ça, j'en ai racheté, j'en ai cherché, parce que d'un coup, dès qu'un objet me plaît, il m'en faut un chez moi. Donc là, j'ai cherché sur Le Bon Coin, sur eBay, et j'ai trouvé une assiette très jolie, parce que je voulais que la graffe soit devant, qu'on la voit bien. On dirait une cicatrice, comme ça, c'est merveilleux. Quoi. Je ne connaissais absolument pas. Étant donné que j'ai vécu un peu au Japon, le fait de rapiécer, c'est un art, sur les bols cassés. Donc là, je me suis dit, mais on a la même chose ici. Ça serait ailleurs, ça serait carrément de l'art. Et là, on a ça d'une façon très, très normale, posée sur une table.
Des assiettes agrafées, Jean-Daniel ?
C'était déjà l'économie parcimonieuse de la fin du 19e et du début du 20e.
Rapiécé, ouais.
On ne jetait pas. Ouais. Et il y avait des artisans, je vais dire, des artistes qui étaient capables, sans casser... Mais c'était un métier. Hein. Il fallait aller au chef-lieu de canton, hein. Saint-Jean-Royan, où pendant les foires, ces gens-là venaient.
C'était un métier, carrément.
Ah oui, c'était un métier.
C'est incroyable.
C'est-à-dire qu'ils étaient capables de faire de minuscules trous, passer une agrafe, refermer l'agrafe, pour que l'étanchéité de l'assiette, du bol,
oui, ça marchait,
et du plat soit totale.
Ah ouais, c'est ça.
C'est vraiment, c'est ce que vient de dire Géraldine Kosiak. Elle a découvert ces choses. C'est cicatrice, mais ça donne encore plus de vie à l'objet. Ça donne plus de vie à l'objet parce que finalement, il a eu une première vue, qui a eu une cassure dans sa vie. Il a eu une réparation, il resserre. Et ça, c'est, je crois, une belle leçon aussi qu'on devrait tirer aujourd'hui.
C'est les objets qui nous parlent, en fait, parce qu'on sent vraiment, quand on parle de mémoire, il y a un moment donné, vous regardez les objets, vous êtes intrigués. Et franchement, ça en dit beaucoup sur nos vies, quoi. Surtout quand ils sont anciens, comme ça, c'est un peu magique.
Ah oui, avec toute cette patine qui donne vraiment de la vie aux objets. Alors, plusieurs œuvres sont exposées dans la salle de séjour de cette... Vous avez donc fait un choix par rapport aux objets que vous aviez choisis, que vous êtes inspiré de l'atmosphère auparavant de la maison-musée.
Ah oui, bah, j'ai pensé à... Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire on parlait collection, en parlant avec Jean-Daniel, évidemment, je me suis dit, j'ai toujours eu un travail sur les collections, donc depuis j'ai fait des livres autour de... j'ai toute une série comme ça, d'une quinzaine de petits dessins encadrés qui sont dans tout le parcours et qui ponctuent comme ça. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Chez nous et j'ai décidé de le mettre dans le musée comme une promenade en fait, comme un chemin de fer, et qui fait que en fait vous pouvez lire des petits passages de ce Chez nous qui moi n'était pas ici, mais qui parle de la campagne et qui parle d'un lieu qui commençait à avoir qui était en train de disparaître par la modernité, c'est-à-dire par une zone commerciale, par des choses qui ont envahi mon paysage et qui ont un peu fait perdre les pratiques anciennes, donc où même le village a perdu son cœur, son centre. Donc j'ai parlé de ça il y a quelques années, donc évidemment ça m'a tout de suite fait penser qu'il fallait que je fasse un écho avec des mots aussi, parce que je trouve que c'est sans trop en mettre, parce que je trouve que le regardeur, le visiteur doit avoir sa place, ça c'est pour moi très important. Et en plus de ça, j'ai mis des broderies aussi qui font partie de ma collection, ce n'est pas moi qui les ai fait, mais où j'aime beaucoup le travail d'amateur ou le travail de gens qui essayent de faire des belles choses pour eux, encadrés, c'est très joli, donc j'en achète. Et là j'ai aussi ponctué dans la salle de l'exposition où il y a les poupées de broderies d'oiseaux, parce que j'aime bien les oiseaux.
Vous êtes écrivaine, c'est une manière aussi d'entrelacer votre travail avec des mots, ou ça peut être complètement...
J'ai toujours eu l'impression, ça s'est toujours mélangé. En fait, j'ai mes livres chez des éditeurs de romans, mais aussi où je mets des dessins, c'est des livres très hybrides, et avec des fragments comme ça, je sais pas, je pense, quand j'ai besoin d'écrire, j'écris, quand j'ai besoin de dessiner, je dessine. En fait, ça fait lien par moment, vous voyez, ça n'a pas fait lien avant, puis là, je vois que ça fait lien. Donc, c'est des mélanges comme ça, très... C'est des histoires de formes, on invente des formes, en fait. Ouais. C'est ça qui m'intéresse, aussi bien dans les livres, d'inventer des formes, que dans une exposition. C'est des terrains de jeu, des espaces, en fait, de comment articuler... des choses entre elles, et puis pour donner à voir, en fait, pour donner à mieux voir. J'ai l'impression que l'art, c'est un peu ça, des fois.
Donc, une petite collection qui va être formalisée un peu par vos interprétations et les objets de la maison-musée. On peut toucher un mot des quelques œuvres qui ont des références historiques aussi.
Oui, vous pensez à Freud, la collection de Freud, oui. Bah, en fait, parce que Sigmund Freud avait une collection assez importante d'antiques, il était passionné d'Égypte et il avait une sculpture qu'il aimait vraiment, une petite statuette comme ça d'Athéna. Et en fait, j'ai été très étonnée déjà que Freud ait des objets. Je pensais vraiment qu'il était en distance de ça.
Pas matériel du tout, finalement, mais pour moi, qu'il
aimait les chiens, qu'il avait deux chouchous. Ça, j'étais très étonnée de ça. Mais parce que dès l'instant où on a des chiens, je me dis, tiens, c'est curieux d'être proche comme ça d'un animal. Je ne voyais pas non plus Freud avec des animaux. Et donc, ça a commencé à me passionner. Puis après, j'ai vraiment regardé. Il avait une correspondance aussi avec une patiente qui est venue le voir aussi, une femme juive. Et ils avaient la même passion. Donc, l'analyse, c'est plutôt... ça s'est un petit peu déplacé sur leur passion des objets. Donc elle a écrit, elle a eu une correspondance. On n'a pas les lettres de Freud, mais on a les lettres de... J'ai un trou de mémoire sur cette femme. Il faudrait que je retrouve. Elle s'est marquée dans mon texte. Et en fait, voilà, c'est deux personnes qui se rencontrent. On est tout de suite avant-guerre, donc il y a vraiment la peur. Et donc entre la peur et puis s'accrocher aux objets comme ça et parler de leur passion de l'Égypte et du berceau, de tout ce qui leur était important, l'humanité, comme ça. Et donc c'est très beau, il y a des lettres très très belles. Donc en fait ça tourne autour de ça, c'est un peu, vous voyez, des fois je lis beaucoup. Ça me fait penser à des tableaux et voilà, je travaille un petit peu comme ça. Donc Freud, c'est arrivé comme ça, il y en a d'autres, mais je fais des hommages aussi avec des objets de femmes, aussi d'artistes Et je fais des tableaux à partir de leurs objets aussi. Donc, vous voyez, c'est toujours autour de l'objet, en fait. Hein, je suis un peu obsessionnelle.
Il y a une certaine universalité dans les objets, puisque vous voyagez beaucoup. Vous constatez effectivement qu'il y a des liens entre les pays. Vous évoquez le Japon tout à l'heure ici, la maison, mémoire.
La question de la maison, elle est maison partout. Une mère est mère partout, un père est père. Vous voyez, c'est, en fait, on s'aperçoit que les gens, ils mangent, ils créent leurs ustensiles. Et on le voit au Japon encore plus parce que on fait très attention à ça. Ce qu'on ferait peut-être un peu moins en France. On regarde vite les choses, mais là, on a des attentions un peu particulières dans certains pays, qui nous donne à regarder l'objet un peu différemment, comme quelque chose de très précieux. Ouais. Donc c'est assez joli, ça aussi. Donc voilà, je ne sais pas, Jean-Daniel, si tu penses que l'objet est précieux.
Je pense que, Géraldine, tu nous dis qu'effectivement, tu vas voir les objets ailleurs et tu retrouves toutes ces relations qui peuvent exister avec ce que tu connais. Mais moi, j'ai cru comprendre que aussi, quand tu vas ailleurs, que chez nous, tu emmènes tes objets fétiches.
Ah oui.
Parce que tu habites. Et moi, ici, ce que... Voilà, moi, j'ai apprécié dans ta proposition, c'est que tu amènes à côté de ton travail un peu de chez toi. Ouais. Et c'est le verbe « habiter la maison de la mémoire pour quelques semaines ». Je pense qu'il a un sens plein, le « habiter ». Et en relisant tes écrits antérieurs, ça m'a frappé parce que c'est... j'emmène avec moi des objets que je repose où j'ailleurs, ailleurs, et ils s'intègrent eux aussi dans cet ailleurs.
Pour refaire un chez moi.
Voilà, c'est ça, il y a une vraie boucle, et je crois qu'on est tous sur ces démarches-là de l'objet, entre guillemets, repère, et avec l'affect qu'on porte à l'objet, et qui est aussi cet affect, me semble-t-il, un écran de sécurité. Quand on fait un pas vers quelque chose, que l'on fait, c'est aussi en relation avec les collections ici.
En fait, tu as tout à fait raison. C'est vrai que quand je me déplace, j'ai une valise en fait de. J'amène des objets un peu fétiches et mon livre préféré. Quoi, des fois, ça me prend beaucoup de place dans ma valise parce que c'est des gros livres. Et je vais amener un DVD que je vais toujours avoir avec moi, comme s'il fallait que immédiatement
ça
où j'arrive.
Ça vous rassure un peu d'avoir votre.
Non, mais c'est ça. C'est chez moi où que je sois. Et après, je rajoute des objets de l'endroit où j'arrive, mais petit à petit, plus vous me connaissez, plus. C'est vrai que ce que j'ai fait là, j'ai mis mon travail, mais j'ai mis ce qui m'inspirait aussi pour dire ah tiens, je me suis refait mon chez moi. Dans la maison de la mémoire, qui était assez étonnant. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai envie de travailler comme ça pour l'instant, c'est-à-dire d'avancer. C'est un peu la vie qui passe, mais qui vous dit « Ah, regardez comment c'est chez moi, c'est chez vous, mais c'est quand même chez moi. » Donc, il y a un jeu comme ça qui s'établit et qui est assez... c'est assez rassurant, en fait, quand vous arrivez. C'est comme si vous étiez là. Il y a toujours mon chien, il y a toujours... Et en fait, il faut qu'il y ait... Ça doit se passer un peu dans la facilité. En fait, où vous soyez dans le monde, si vous avez même 10 mètres carrés ou 5 mètres carrés et que vous accrochez des choses qui sont habituellement 8000 km d'où vous venez, en fait, vous ne regardez pas dehors, vous regardez le tableau que vous avez amené. Donc, d'être artiste, c'est assez chouette.
Mais ton regard s'élargit aussi au fur et à
mesure. Ah, bien sûr, oui. J'espère.
Non, mais c'est ça qui est intéressant dans la proposition.
Ouais. Je ne reste pas dans
moi. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on peut imaginer que ta valise, elle va s'agrandir.
Maintenant, c'est une malle.
Voilà, c'est ça. Ah, c'est exactement.
Je pense que bientôt, il va falloir que j'achète un avion.
C'est exactement
que
ça.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que plus on avance, et c'est ça qui est assez drôle dans le projet que je suis en train de faire. C'est-à-dire plus vous avancez, plus vous rajoutez des tableaux. Là, je le fais dans la région Rhône-Alpes. Après, je vais la faire en Bourgogne. Et puis après, je vais le faire en France. C'est le tour de France, en fait, mais pas à vélo, en fait, avec des tableaux que je vais... Et il va bientôt falloir une remorque, parce que j'aimais bien ce côté aussi nomade. C'est-à-dire, au moment d'un confinement, vous êtes toujours un peu... vu qu'on n'en avait jamais vécu, mais en tout cas, en ressortant, qu'est-ce qu'on fait ? De se déplacer, ça devient compliqué. Donc, de changer aussi la donne, d'aller plus vers les gens, d'essayer de leur dire, ouais, ben oui, ça devient dur pour vous d'aller dans les musées, d'aller dans des endroits où on vous donne à voir, parce que ça prend du temps de reprendre un rythme. Et puis de se dire, d'aller vers les gens, c'est quand même génial, quoi, de pouvoir avoir des lieux comme ça aussi en France. Moi, je découvre plein de trucs, c'est super. J'ai la chose que je fais dans ce projet, c'est-à-dire que je vais dans des lieux où je n'ai jamais été. Oui. Il faut que j'ai la première, vous savez, le premier « waouh ». Parce que des fois, ça ne peut pas marcher. C'est pas toujours, on n'est pas toujours inspiré.
On l'a travaillé, le waouh.
Ouais. Il était bien, là.
Et ensuite, ça devient votre Heimat, votre chez-vous, un chez-soi affectif que vous allez continuer à cultiver sur plusieurs autres lieux, un peu dans ce même esprit de s'imprégner des atmosphères, de regarder, découvrir des objets, puis ensuite reconstituer votre...
Le tableau, en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment de choisir. Je ne prends pas, vous voyez, là, il y a 2000 objets. J'en ai pris 4-5. Il faut, pour une composition, je ne veux pas en faire non plus 3-4. Ça veut dire qu'il... Parce que ça prend beaucoup de temps. Donc là, je viens et je regarde et je repars et je refais. Et c'est aussi presque une façon... J'aime bien l'idée du... Vous savez, quand vous êtes sur l'autoroute, il y a toujours les grands panneaux d'autoroute où il y a marqué abbaye de ou la source de. Vous allez certainement jamais y aller, mais vous savez que c'est là. Et c'est quand même pas mal de savoir que c'est là. Et moi, j'adore, je roule beaucoup et j'adore être sur l'autoroute et de me dire, un jour, je vais y aller, mais je sais que c'est là, il ne faut pas qu'ils m'enlèvent le panneau de l'autoroute parce que je ne saurais pas où c'est. Et là, bah, je me dis, si je peux amener un tableau où il dit, allez voir là, la maison mémoire de Rochechinard, il y a ça là, à essayer d'aller voir ça. Je me dis que ça peut aussi donner l'envie, par l'étrangeté de ma composition et le fait que ça soit un grand tableau, et de venir et de voir que les poupées, elles sont grandes comme ça et pas de 80 cm. Donc c'est un peu aussi comme ça que je m'amuse sur les lieux.
Cette dimension affective donne aussi les proportions de l'échelle.
Oui, ouais. Mais c'est pour ça. En fait, au départ, il y avait plein d'objets que j'aimais bien. Mais je n'avais pas les moyens de me les acheter. C'est un peu pour ça qu'on peint aussi ou qu'on photographie. C'est-à-dire que des fois, je me suis dit, ah, les poupées, franchement, j'aimerais bien les voler en partant. Hein. Mais là, je sais qu'on ne peut pas y toucher. Donc je me dis, bah, je les aurai toujours devant moi quelque part. Et c'est aussi de peindre, c'est d'avoir une certaine appartenance, comme la photographie, on a pour les objets. J'ai photographié énormément d'objets. Elles sont toutes dans un ordinateur que je regarde de temps en temps en me disant « waouh ». Mais j'ai fait une chose assez jolie. Au Japon, j'avais comme ça vraiment photographié. Je photographiais tous les jours des objets aux puces. C'est presque une pratique que j'ai depuis une vingtaine d'années. Et en fait, le soir, je regardais ce que j'avais photographié. Et des fois, je m'étais dit, oh, mais comment j'aurais dû acheter cet objet ? Mais je ne l'ai même pas vu pour l'acheter. Je l'ai vu pour la forme, pour la beauté. En fait, c'est la beauté du geste aussi, des fois, l'art.
Vous êtes un peu fétichiste, non ? Quelque part ?
Non, parce que je ne suis pas collectionneuse. Je vous dis, j'ai acheté une assiette agrafée, peut-être deux, et après je passe à autre chose. Mais je ne pense pas... Non, fétichiste, c'est un petit peu trop...
C'est un peu fort comme terme.
Ouais, ouais.
Mais
excusez-moi.
Je pense, avec les échanges que nous avons eus avec Géraldine, que c'est quelqu'un qui aime grappiller la vie.
Qui aime prendre la nage.
Les choses qui sont comme cela, et c'est pas effectivement c'est pas la vision de la collection. C'est la vision de l'objet à l'instant T qui fait plaisir parce qu'il est l'objet par lui-même et que derrière, ce que dit Géraldine, on peut revoir plein de choses. C'est pas l'idée de la collection, me semble-t-il.
Enfin, non, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une chose va m'amener à une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Un objet m'amène à un autre. La collection, c'est un peu obsessionnel. C'est-à-dire, on a collectionné 3000 cochons ou d'objets comme ça. Moi, j'ai plein d'objets différents. Alors, on va dire que je suis collectionneuse de tout. Peut-être c'est encore plus obsessionnel. Je ne sais pas. Je ne m'arrête jamais. Mais je ne sais pas. Oui, j'aime bien cette idée de pouvoir prendre... Ouais, de grappiller. J'aime bien cette idée-là. Ouais, elle est bien.
De grappiller, ensuite mettre en scène et la mise en scène, Jean-Daniel, votre coup d'œil quand même, maintenant que les œuvres sont posées.
La proposition, c'est Géraldine de A à Z sur la place des tableaux dans les pièces, les espaces. Et en fait, c'est le cadeau qu'elle nous fait. Moi, je suis tout simplement encore un peu esbaudi de penser que Géraldine Kosiak vient quelque temps habiter la maison musée à Rochinard. C'est quelque chose qui est... Alors, son rendu... moi, j'aime beaucoup, elle n'a pas dit le mot, j'aime beaucoup quand elle fait des juxtapositions. Les juxtapositions, ça veut dire qu'il y a de l'espace entre. Et l'espace, on rentre aussi au-delà de l'objet. Et l'espace est noir. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a une mise en exergue de ce qui est présenté à travers ce noir. Et ça incite, je dirais... Enfin, moi, basiquement, je dirais qu'il y a deux lectures. Il y a celle de l'œil. Comme ça, on va regarder cette proposition comme cela. Et puis, il y a celle qui est nécessaire à travers la lecture de ces écrits, de ces petits cartels, qui nous comptent, non pas l'objet, mais le pourquoi de l'objet, à quel moment il est arrivé. Et ça, je crois que c'est un exercice qui n'est pas du tout intellectuel, qui est juste un exercice d'humanité, de pouvoir rentrer dans une toile qui est offerte. Et pour moi, le mot que j'ai à dire, c'est Géraldine s'est emparée des choses, d'un moment, d'un sentiment, et après elle laisse les visiteurs publics, amis, de s'emparer à la façon dont ils veulent. Et c'est ça aussi, c'est le tracé n'impose plus rien. C'est vraiment, on peut effectivement chacun rentrer à sa façon dans les œuvres présentées. Pour moi, c'était quelque chose qu'on a rarement pu faire dans les expositions que l'on proposait. Il faut vraiment accepter que c'est quelque chose qui nous est donné à partager. Voilà, c'est le ressentiment qui est le mien, mais aussi de tous les membres de la SOS avec qui on a travaillé dessus. Voilà, c'est le... Moi aussi, hein, waouh.
Ouais. Bah oui, parce que c'est toujours un échange. Quand on arrive dans un lieu, si, il faut que ça se passe bien. Il faut qu'on écoute ce qu'on a à nous dire du lieu. Surtout dans des lieux comme ça de mémoire. Il n'y a que les gens qui sont là qui vous disent ce que c'est, comment ça a été fait. Il faut arriver à apprendre vite. J'ai déjà fait ça aussi avec le Frac Aquitaine. J'ai travaillé sur un livre sur l'histoire du Frac en Aquitaine et du début des années 80. Je voulais voir comment, si la mission de François Mitterrand et Jacques Lange concernant les Fracs, les collections d'art contemporain, avait été bien remplie. Et c'est bien rempli, là, en Aquitaine, on voit le travail qui a été fait. Et la mémoire, j'ai travaillé pendant un an avec l'archiviste qui était là depuis les années 80, qui partait en retraite. Et en fait, vous écoutez, et ça transmet encore. Et il faut que ça transmette comme ça, et peut-être que nous, on est simplement... Je dis des fois, moi, j'ai l'impression d'être un émetteur et qui envoie pour que les gens puissent...
S'emparer en fait.
Oui, comme une radio, c'est-à-dire on en voit, on ne sait pas trop où ça va. Et puis c'est ça qui est beau, c'est que des fois vous êtes étonné par les échos que vous avez, par les retours, en disant « Ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça, je n'avais pas regardé comme ça. » Et d'apprendre à voir, c'est une éducation aussi. Je pense que dans un temps rapide comme le nôtre, avec Internet, c'est extrêmement important de prendre le temps et de s'arrêter. Aussi pour venir dans des endroits tels que ceux-là. Pas juste parce qu'on est en camping-car et qu'on se gare et qu'on regarde. Il faut emmener les enfants, c'est ce que je dis en ce moment, l'art c'est de la résistance. C'est de la résistance à un monde qui est un peu trop rapide pour l'instant. Donc il y a des charnières, il y a des époques, et là il faut nous qu'on arrive à réfléchir. Pour moi, les artistes, ça fait partie de ça. Il faut prendre le temps et se poser et regarder. Et voir ce qu'on peut faire de notre côté.
Il y a un caractère de développement durable aussi dans les objets, puisqu'on parle d'assiettes agrafées. Ouais. En fait, les choses reprennent vie constamment.
Ah, moi, je suis la reine du bon coin. Hein. Je vais vous dire, le recyclage, le fait de... Alors, me déplacer, je me déplace encore en voiture, vu que je fais aussi beaucoup de kilomètres entre les musées et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est comment arriver à... à articuler tout ça pour que d'un coup, faire attention à tout. On peut pas ne pas être conscient de ce qui se passe actuellement. C'est pas possible. Donc évidemment, quand on regarde ce qui se faisait à cette époque-là, ils recyclaient tout. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient, il n'y avait pas beaucoup d'argent.
C'est un bon... Il y a un mot, je pense que Géraldine, elle va découvrir dans le royaume. Un mot qu'elle va découvrir, c'est l'angivaneur.
Ah, c'est joli, ce mot.
Ah, ben oui, mais ça, elle ne sait pas ce que
non,
c'est. Donc...
je ne sais pas.
Voilà. Donc, Patrice, tu vas peut-être en dire deux mots.
C'est une facette assez caractéristique du paysage du royaume, à savoir les gens qui s'attribuer leurs outils, toutes les astuces pour confectionner, pour arriver à modéliser
c'est
ou faire quelque chose.
Hein.
Et ça a été effectivement un peu l'emblème de la tournerie tablettrie où finalement, pour manufacturer un objet, ils mettaient leurs moyens déjà intellectuels pour façonner celui-ci.
Mais on voit même diffuser. Comme c'est ingénieux. Moi, je regarde les maisons. Quand vous regardez comment faisaient les anciens, mais bon, mais revenons à beaucoup de choses quand même. On apprend beaucoup.
Merci beaucoup Géraldine Koziak, en sachant que bien après l'itinéraire va se poursuivre dans d'autres lieux, vous commencez à travailler d'autres étapes Roche-Chinard.
Oui, il y a Tournon sur Rhône et puis après Beaujeu, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui vont apparaître. On a 12 lieux dans une année, après il faut faire les expositions, c'est un gros travail. Mais c'est passionnant.
Des lieux de mémoire essentiellement.
Pas spécialement, non. Il y a des, c'est quand même toujours de la mémoire. Soit c'est des châteaux, soit c'est une autre forme. Il y a plusieurs formes de mémoire. Mmh. Des moments, ça peut être autour d'un peintre. Des moments, ça peut être sur vraiment plein de choses différentes. Donc c'est vraiment c'est super. C'est de regarder en fait ce qu'on a autour de nous. Mmh. Quand on a beaucoup voyagé, c'est facile de dire ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment.
Bon, ça aiguise le regard d'autant plus de sillonner un peu plus largement autour de chez soi.
Oui, puis me suivre en fait, comme un coureur cycliste pour le Tour de France. Vous regardez, là, vous cherchez mon parcours et vous allez me trouver.
On aura tout gagné quand on dira « Allez, vas-y Géraldine,
oui.
Allez, vas-y !»
Quand je vais être sur la grande pente de la Haute-Savoie, c'est là que ce sera fini.
En tout cas, on va suivre votre parcours avec attention dans ces différentes étapes, dont Roche-Chinard et sa maison mémoire est le premier en bois.
La première étape.
Première étape. C'est un honneur, Jean-Daniel, commencer par...
C'est
quelque chose de symbolique.
Non, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment... C'est un honneur pour nous, Association des Amis de la Maison de la Mémoire du Royan, d'accueillir une mémoire vivante qui vient d'ailleurs.
Oui, je suis encore vivant.
Et de magnifier tout ce qui s'y trouve dans cette maison. Merci beaucoup et bonne continuation, Géraldine Koziak. À très bientôt. Merci Jean-Daniel.
Merci.
Et puis bien sûr, on reste ensemble et on se retrouve durant toute cette saison.
Exactement.
La vernissage pour ce samedi, mais ensuite, différents temps forts vont donner un certain maillage à la saison 2023.
Voilà.
Notamment une prochaine conférence de Jocelyne Derbien. On peut en toucher un mot?
Oui, samedi prochain, 29 à partir de 19h, très certainement dans l'église. Jocelyn Derbier, qui est l'historien du château, nous offre une conférence. Il n'était pas intervenu pratiquement depuis 19 ans sur l'histoire du château et il a déniché encore des informations, des anecdotes. Il va nous amener encore des choses sur le château. Voilà, ça sera le 29. On a ensuite le 8 août. Une proposition d'un atelier d'écriture avec Anne d'Acosta et
Sina Rupienne,
oui, et Jocelyn aussi.
Et Jocelyn aussi, bien sûr. Non,
honnêtement, cette année, hormis l'étrangère qui est Jocelyne Koziak, c'est vraiment les Sina Rupienne qui ont donné effort. Anne d'Acosta va faire un atelier avec la proposition de la thématique des amours de petits riens. Et c'est en parfaite résonance avec la proposition de Géraldine. C'est des petits objets inutiles, désuets, qui nous accompagnent notre vie. Mmh. Voilà. Après, on aura la grande nuit du blues avec encore un Sina Rupienne, Manuel Gros, avec Di Manu, avec son groupe de blues qui va, comme l'année dernière, vraiment nous emmener, je dirais, presque au bout de la nuit. Voilà. Et ça, on a ensuite c'est le 20 août, c'est ça ? Oui. Mm-hmm. C'est le 20 août, là, c'est notre troisième brocante. Alors, c'est une brocante qui se passe sur l'esplanade, là où on est. Et c'est une brocante où nous souhaitons que les exposants offrent à la vente des objets dans la dimension temporelle de ce que nous proposons dans le musée, c'est-à-dire fin du 19e, les années 1920. Donc là aussi, venez nombreux parce que les pros, ils sont là très tôt.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc on commence à 8h et jusqu'à à peu près 16h. Mmh. Voilà. Et on terminera le jeudi 24 août. C'est un moment auquel on tient parce que c'est aussi dans un devoir de mémoire et d'hommage. On va rendre hommage à Jean Vignat. Donc Jean Vignat, ce monsieur qui était arrivé dans le Royan il y a à peu près une trentaine d'années et qui est toujours resté quelqu'un qu'on voyait arpenter le village, un grand marcheur. Et bon, certains savent, mais c'était aussi un grand monsieur de la poésie française avec de très belles récompenses, plus d'une trentaine d'ouvrages. Et cet hommage, il est décédé il y a quelques mois, la veille de ses 100 ans. Et c'est ses amis, encore Sina Rupia, Fabien et Anne, qui lui rendent hommage à travers un film qu'avait fait Fabien, Le promeneur de Saint-Jean, en Royan. Et un temps, nous ferons des lectures de ses œuvres. Et puis, bon, on aura des échanges. Voilà, et notre saison se terminera le 3 septembre. Mmh. Alors, peut-être que d'ici là, on a peut-être des choses qui vont arriver. Donc, rencontre des martiens de Vénus avec qui on peut faire des choses, pas programmées. Voilà.
Tout est ouvert, en tout cas, pour cette saison 2023. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lafouré. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des amis
de la maison
de la mémoire du Royan.
Voilà, merci à tous.
Vraiment. Merci et à très bientôt et bon vernissage.
Et avec vous, hein.
Bien sûr, on reste là.
Merci.
Bienvenue dans l'agenda de Radio Royan-Vercors pour ce mercredi 26 juillet et réalisé grâce à nos partenaires, le Musée de l'eau de Pont-en-Royan, le Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix à Binet, la Maison Musée des Roches Chinard, le Mémorial de la Résistance à Vassieu-en-Vercors, qui dans cette commune abrite également le Musée de la Préhistoire et le Musée de la Résistance, également partenaire, le Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône, la Grotte de Thaïs et le Bateau à Roues à Saint-Nazaire en Royan et la Grotte de Chouranche. Les festivals aussi partenaires, le festival Texte en l'air qui bat son plein actuellement, qui commence à ouvrir ses portes pour ce milieu de semaine à Saint-Antoine-l'Abbaye, le Festival des Chapelles en Royan-Vercors, l'Office de Tourisme Vercors-Drôme et ses trois antennes, ainsi que le site Indians Valley à Beauregard-Barré. Et pour ouvrir très sympathiquement cet agenda, un petit coup d'œil du côté du calendrier des marchés, avec en ce jeudi toujours le marché à Saint-Jean-Royan et la chapelle en Vercors, Saint-Jean-Royan place de la mairie, mais c'est pour demain exactement. Demain jeudi, la chapelle place Pietri en matinée. L'occasion pourquoi pas de rencontrer, si vous passez du côté du marché de Saint-Jean-Royan, l'éco-garde sur place à la rencontre du public pour prodiguer des conseils de randonnée, nature, réglementation, lecture de cartes et puis préciser un petit peu tous les intérêts pédestres du parc naturel régional du Vercors. C'est avec le concours de l'Office de tourisme Vercors-Drôme de 9h à 11h30. Côté marché, c'est également à Saint-Hilaire-du-Rosier, le marché alimentaire du jeudi matin, place de la mairie. N'oubliez pas non plus que le jeudi, Vatilieu propose son marché de producteurs à l'espace Louis Burion Champin, marché de producteurs locaux, artisans, convivial et gourmand. Et la Clé des Sables aussi, le jeudi, donne un côté guinguette à ces marchés de producteurs. C'est de 17h à 21h à Saint-Lathier. des animations nocturnes à prévoir pour déjà ce mercredi soir. On parle notamment des nocturnes théâtralisées de Pont-en-Royan, à découvrir tous les mercredis jusqu'au 16 août en compagnie de Joseph. C'est l'allumeur de Réverbère qui, dans sa tournée à la tombée de la nuit, vous fera découvrir le village au rythme de ses histoires. Renseignements auprès de l'Office de tourisme Saint-Marcellin-Vercors-Isère. Voilà, c'est un peu aussi le ton des visites théâtralisées qui émergent en ce moment, puisqu'à Saint-Antoine-l'Abbaye, même principe de donner un côté théâtral assez immersif aux visites avec le thème « La médecine médiévale ». C'est donc le mercredi, effectivement ce mercredi soir-là, et jusqu'au 23 août, où vous pouvez donc, à travers le personnage de Jeannot, découvrir bien tout ce qui donnait ce côté assez maintenant célèbre de Saint-Antoine-l'Abbaye, le mal des ardents, en passant par le moine apothicaire et jusqu'au barbier chirurgien. Voilà, vous en saurez beaucoup plus sur la médecine d'autrefois qui vous surprendra vraisemblablement. Après ces visites théâtralisées, place un peu au sport et à la nature. À savoir que, eh bien, effectivement, tous les jeudis, c'est un moment de sortie, de découverte, de spéléologie tout d'abord, pour enfiler votre néoprène ou une tenue adéquate pour découvrir des cavités sur le Vercors. C'est des sorties à la demi-journée, de 9h à 12h. Cette information nous est relayée par l'Office de tourisme Vercors Drôme avec sa gazette, hein, qui vous en dira beaucoup plus sur les différents acteurs qui donnent ce type de sortie de manière hebdomadaire. Et même principe aussi de découverte avec le canyon. On parle de randonnée aquatique, à l'initiation à la descente en rappel. Et bien sûr avec des professionnels qui vous emmèneront dans différents canyons comme celui de la Comanne, du Furon ou encore du Verseau. C'est Outdoor Aventure qui propose ces activités les lundis et les jeudis de 13h30 à 18h. Un numéro de téléphone pour les inscriptions, si cela vous intéresse, 06 84 16 88 57. Le jeudi, un moment de visite aussi sur le Royan-Vercors avec l'atelier boutique de savon bio de la Source. Découvrir un peu la manière dont sont fabriqués ce type de savon, très bon pour la peau. Et c'est Virginie qui se fera un plaisir de vous en dire beaucoup plus. De 9h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis, jeudis et vendredis à Saint-Martin-en-Vercors, juste à l'entrée du village. La séance est gratuite. On redescend de Saint-Martin-en-Vercors pour rejoindre Echevi pour un atelier grand jeu d'enquête nature qui vous donnera des pistes de jeux sensoriels, des énigmes pour toute la famille avec différents niveaux de difficulté pour les 4-6 ans et les 6-10 ans. Dans ce lieu très rafraîchissant et agréable qu'est la guinguette du pêcheur. Attention, réservation obligatoire. Tarif à partir de 7 euros. Vous pouvez joindre la guinguette au 07 68 92 07 39. Évoquer le côté rafraîchissant de Echevi et sa guinguette. C'est aussi le cas pour le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Très rafraîchissant puis merveilleusement beau. Nous allons pour cela aborder notre troisième chronique de cette semaine en compagnie de Magali, chef jardinière, pour toujours un petit peu plus d'informations et de découvertes de ce jardin remarquable à la Saône. Touristique au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Une visite guidée par Magali, chef jardinière du site.
Là, on entend un peu des bruits de fracas. L'eau martyrise un petit peu le tuf, on dirait ici. Hein.
Alors là, nous sommes tout proches de la cascade. Et avec le soleil levant derrière, on voit bien toutes ces petites gouttelettes d'eau qui rebondissent partout. Et c'est elles qui vont venir déposer le calcaire. Le monticule que l'on voit sous la cascade n'était pas là il y a 30 ans à l'ouverture du jardin. C'est le calcaire qui s'est déposé. Donc même sous la cascade, nous avons du dépôt calcaire. Et là, maintenant, ce dépôt nous empêche de voir le reste du jardin. Donc il va falloir contourner pour aller voir ce qui se passe derrière. En cas d'inondation, nous avons mis des bottes au pied du banc pour pas qu'ils se mouillent les pieds.
D'accord.
Là, sous la cascade, nous allons passer derrière, il y a un petit passage secret, et on voit une plante aquatique, alors qui n'est pas complètement immergée, hein, on ne voit pas de flaque d'eau, mais la terre est quand même très fraîche en dessous. C'est un dichromena. Et la fleur, en fait, est formée de toutes petites fleurs, mais c'est surtout les bractées blanches qui lui donnent une apparence d'étoile filante. C'est une plante qu'on ne voit pas dans beaucoup de jardins.
Là, c'est la bijouterie. La bijouterie du jardin.
On entre dans la cave qui a été creusée par l'homme à l'intérieur de la falaise. Là, on a un effet de fraîcheur très important. C'est l'eau qui climatise cette cave. On l'entend, là, couler sur des étagères. C'est un cristallisoire. On place des objets sur les étagères et l'eau va déposer son calcaire. Elle va pétrifier ces objets en terre cuite que l'on va ensuite pouvoir trouver dans la boutique. En sortant.
Et les objets, ils sont de quelle matière au départ ?
Ce sont des objets en terre cuite.
Okay.
Parce que c'est le plus facile à pétrifier et à transporter. Okay. Mais on pourrait pétrifier tout ce qu'on veut. Du bois, du fer, du verre, du plastique. Suivant l'accroche, après, ça reste fragile quand même, le dépôt qui se met dessus. Mais là, c'est de la terre cuite, donc l'eau passe à travers. Elle reste perméable. Et du coup, le calcaire se lie intimement à la poterie. Donc on a un objet qui va vraiment très bien résister dans le temps, qu'on va pouvoir conserver plusieurs années chez soi.
Il faut qu'il soit poreux en fait, c'est ça ? Il faut qu'il soit poreux pour...
Pour que l'eau passe à travers et que le calcaire se lie. Oui.
Combien de temps il reste dessus ?
Les objets là, on va les laisser 3 mois sous l'eau. En 3 mois, on va avoir un dépôt de 2 mm environ autour de l'objet. On peut voir que tous les objets ne sont pas là depuis le même moment. Pour certains, on voit encore la couleur de la poterie. Certains étaient rouges, gris ou blancs. À la fin, ces objets auront tous la même couleur, la couleur du calcaire du jardin. Couleur crème jaune.
Ah oui, il y a une petite nouveauté dans la salle pétrifiante.
Dans le cristallisoire, nous avons installé des panneaux explicatifs sur d'où vient cette eau, pourquoi elle est chargée de calcaire, sur les fontaines pétrifiantes, pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe à l'extérieur entre ce calcaire qui était dans l'eau et les végétaux. Ensuite, on explique ce qui se passe dans le cristallisoire, le calcaire et les objets. Et puis un petit peu d'histoire aussi sur le tuf, cette roche qui se forme, hein, les végétaux pétrifiés. Ça forme du tuf et ce tuf a été exploité ici au village de la Saône par des carrières qui ont permis de construire de nombreux bâtiments dans la région. Et puis on finit sur le jardin, quelle est l'importance de l'eau dans notre jardin. Bien sûr, ça permet d'avoir un jardin luxuriant, de pouvoir arroser. Et puis la protection que ces sources apportent pendant l'hiver aussi, grâce à leur température, qui vont permettre de protéger du froid des plantes dans le jardin.
À suivre cette chronique touristique au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, en compagnie de Magali, chef jardinière du site. À Magali, chef jardinière du jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, pour cette visite que nous poursuivrons en cette fin de semaine. En attendant, vous proposez quelques animations sur les secteurs du Sud-Grésivaudan et du Royan-Vercors. Et bien sûr, en cette soirée de mercredi, c'est l'ouverture du Festival Texte en l'air 2023 à Saint-Antoine-l'Abbaye. Le Festival Texte en l'air, partenaire de ce magazine touristique, par lequel nous réaliserons d'ailleurs un studio sur place le jeudi après-midi avec une diffusion de l'enregistrement le vendredi matin avec les acteurs de ce festival qui maintenant, bien depuis 19 ans, s'évertue à proposer de manière gratuite pour la plupart et aussi des petits tarifs de concerts, lectures, pérégrinations poétiques et bien sûr des grands spectacles de théâtre au cœur du village médiéval de Saint-Antoine-l'Abbaye. Découvrez notre reportage sur notre site radioroyant.fr et laissez-vous guider dans les différents parcours de ce festival très créatif. Et à présent, nous allons donc prendre la route de Texte en l'air. Découvrons avec Valérie Charpinet les grandes lignes de ce festival au micro d'Anouchka.
Donc le festival Texte en l'air qui aura lieu du 26 au 30 juillet à Saint-Antoine-l'Abbaye et qui propose également de très nombreux rendez-vous théâtre pour les adultes.
Oui, absolument. Nombreux rendez-vous. Les rendez-vous qui sont bien connus, ce sont les rendez-vous dans la basse-cour de Saint-Antoine-l'Abbaye. Donc c'est ce lieu que nous aménageons pour transformer cet endroit qui se situe derrière l'abbatiale, entre l'abbatiale et le musée. Et nous faisons de cet endroit-là une petite cour d'honneur. Après Avignon et Grignan, c'est la cour d'honneur de Saint-Antoine-l'Abbaye. Et donc, on a la chance de pouvoir assister à 4 représentations à partir du jeudi, donc du jeudi au samedi. 4 représentations avec les étoiles comme ciel au-dessus de nos têtes, c'est pas mal. Et donc, il y aura 4 propositions. La première est une proposition, en fait, qui réunit les 3 pilier du festival Texte en l'air, c'est-à-dire le théâtre, la poésie, la musique. Elle s'appelle Virgule Inspire, sur des textes de Marlène Tissot, poétesse qui habite en Drôme. Et elle est accompagnée par le collectif VRAC, musicien, qui est, beaucoup sont drômois également. Voilà, Marlène Tissot a la particularité d'écrire des textes d'une apparente simplicité et qui font souvent mouche et qui sont extrêmement engagés. Et donc, c'est un spectacle assez libérateur et joyeux et voilà, de partage et de se retrouver comme ça autour de ces mots et de cette musique qui porte une rage et une joie de vivre. Et il y a également dans ce spectacle une très belle vidéo qui accompagne les musiciens et cette autrice.
Donc c'est le premier rendez-vous au théâtre qui lance le festival le mercredi 26 juillet. Ensuite, du côté des adultes, quels sont les rendez-vous suivants ?
Donc le rendez-vous suivant s'appelle Grès, tentative de sédimentation en sous-titre. C'est un spectacle que j'ai découvert l'année dernière à Avignon. Mon coup de cœur, c'est le trajet d'une vie en fait. Cet homme au départ est agent de sécurité dans un centre commercial. Il essaie de tout bien faire pour rester dans le cadre absolument, dans son travail, dans sa famille, dans sa façon d'élever les enfants, dans son rapport avec sa femme. Il essaie vraiment de tenir ce cadre-là malgré la rudesse de la vie et malgré les fins de mois difficiles. Et jusqu'à ce que cette humiliation dans laquelle il est un peu en permanence à cause de son travail et de ses difficultés-là va se transformer en colère et il va se retrouver un jour avec un pavé dans la main sur les Champs-Élysées au moment des Gilets jaunes. Et c'est vraiment un très très beau comédien qui nous fait comprendre de façon intime quel est le parcours de cette personne-là. Comment il en est arrivé là alors que ça n'était évidemment pas du tout son projet de vie au départ.
Tentative donc de sédimentation, donc c'est le jeudi 27 juillet à 21h30. On passe au rendez-vous suivant donc pour le théâtre adulte, c'est dès le vendredi je crois.
Oui, c'est Mort d'une montagne, un spectacle coécrit par François Yen et Jérôme Cochet. Ils sont allés pour ça en résidence dans un refuge de haute montagne. Et en fait, c'est un spectacle qui parle de toutes les problématiques et les enjeux de la montagne actuellement, mais au travers du prisme d'une histoire à la fois familiale et personnelle. C'est-à-dire qu'il y a trois personnages qui sont une sœur qui garde le refuge, le frère est guide de haute montagne, et le troisième frère a quitté la montagne, mais il revient là avec une mission professionnelle. Il y a également la cliente du guide de haute montagne qui est là pour, elle, faire une ascension qu'elle veut absolument réaliser. Et tous ces personnages sont embarqués donc dans une réelle histoire et une histoire d'ascension. Et à travers ça, on entend aussi toutes les problématiques actuelles de comment encore vivre de la montagne, avec la montagne, en montagne, avec ce qu'on connaît, des pertes de glaciers, de neige et d'effondrement.
Et donc pour le dernier, je crois, rendez-vous théâtre pour les adultes qui se déroule le samedi 29 juillet.
Oui, un titre qui peut faire peur, m'a-t-on dit, puisqu'il s'appelle « Palpitant et dévasté ». Et en fait, faut vraiment pas avoir peur de ce titre-là. C'est un peu un titre qui fait référence aux origines slaves de cette histoire. Donc voilà, le théâtre russe où on aime à la fois rire et pleurer. En tout cas, le théâtre slave. Et puisque en fait, c'est l'histoire d'un mariage. Donc au départ, tout commence bien. Et le jour de ce mariage, le marié apprend le second prénom de sa femme qu'il ignorait. Et ce second prénom a une origine qu'il ne connaît pas. Et donc, il va essayer de comprendre cette histoire-là qui est cachée dans la famille. Et il se trouve que cette jeune femme a pour grand-mère une grand-mère ukrainienne. Et donc, comment c'est l'histoire passé de l'Ukraine ressurgit à ce moment-là dans ce mariage et dans la vie de ces personnes. Et sur le plateau, il y a également la mère qui est là avec son nouvel amant. Et son nouvel amant est un musicien roumain, accordéoniste, et qui donc joue pendant le mariage et joue aussi à plusieurs moments du spectacle.
Donc « Palpitant et dévasté », c'est un rendez-vous théâtre pour les adultes à 21h30 le samedi 29 juillet.
Demain jeudi à Saint-Antoine-l'Abbaye, toujours promenade au jardin avec Xaviera, guide conférencière, qui vous en dira beaucoup hein, sur ce qui est cultivé en son sein et vous donnera aussi bien toutes les clés, pourquoi pas chez vous, de réaliser un petit jardin thérapeutique et médiéval, aux accents médiévaux. C'est gratuit, mais attention, réservation conseillée auprès du musée départemental. C'est dans le cadre des rendez-vous de l'été. 04 76 36 40 68, c'est le numéro du musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Et intéressons-nous au Royan-Vercors aussi, qui a de multiples propositions pour cette fin de semaine. C'est mercredi et jeudi. On parle bien sûr du Festival des Chapelles en Vercors qui, demain, vous donnera la suite de cette programmation, très belle programmation, avec les flûtes virtuoses et leurs accompagnements, un concert classique, un voyage musical tout public autour des œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorak, Mozart ou encore Fauré, dans l'église de la Chapelle en Vercors à 17h. Et à Vassieu-en-Vercors, les Contes de la Forêt, aussi jeudi, interprété par Sarah. À partir de 3 ans, dans le café-librairie Les Espelines, 18h-19h, participation libre. Et petit focus aussi, nous allons aborder avec cette fin de semaine le Festival des Chapelles en Vercors. Le Festival des Chapelles en Vercors qui propose encore une très belle soirée en perspective. Et nous allons pour cela nous diriger du côté de Jaillan. C'est un petit pas de côté pour cette proposition de concert avec Marc Drouard et François Tuillier, tubiste. Marc Drouard, guitariste, c'est le duo DDT dans l'église de Jaillan ce jeudi 27 juillet à 20h30. Donc jazz pour la thématique, la patine de cette soirée qui sera assez libre d'un point de vue interprétation puisque ces deux jazzmen très à l'aise avec leurs instruments nous proposeront des compositions avec bien des artistes qui leur sont chers comme Andy Hemler ou encore Eddie Lewis. Il est largement préférable de réserver pour les soirées puisque dans les églises parfois la jauge est petite. Donc je vous laisse le soin de vous diriger sur le site du Festival des Chapelles en Royan-Vercors avec la thématique des 20e siècle, du 20e siècle abordé cette année. Et vous pourrez réserver en ligne donc sur festivaldeschapelles.fr votre place pour cette soirée du jeudi 27 juillet. À noter que le festival se termine dimanche avec le grand concert final à Léoncelle dans la belle abbaye de Léoncelle. et le duo Fabrice Ferrez-Marc Pantillon autour des musiques dégénérées, les compositeurs interdits par le nazisme. Ce sera le point d'orgue de ce festival 2023. Et pour en savoir plus pour cette prochaine soirée du Festival des Chapelles, je vous propose de retrouver Fabrice Ferrez qui nous donne un avant-goût de cette programmation de jeudi.
On va à Jaillan, encore un nouveau lieu. Des Monts du Matin qu'on n'avait pas visité. C'est une très jolie église, Jaillan, je vous la recommande, parce qu'elle était, ça a été une église, je ne sais pas comment on dit, fille, ou dans le giron, ça serait peut-être plus exact, de l'abbaye de Léoncelles. Et il y a quelques chapiteaux romans qui ont été très bien réutilisés à l'entrée de l'église, et un chœur qui est magnifique. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous recommande déjà pour le lieu de venir au concert. Et on va entendre du jazz avec deux artistes que nos amis Patrice et Christian vont vous faire entendre tout de suite. Marc Droit et François Tullier. François Tullier, c'est le meilleur tubiste français. On l'a déjà accueilli deux fois sur le festival, ou trois fois même peut-être. Et voilà, c'est un artiste à pas louper. C'est vraiment un monstre sacré. C'est quelqu'un, dès que vous allez dans une ville de France et que vous voyez un tubiste, je connais François Tullier. Il dit, ah oui, je sais, c'était mon professeur, ça a été le professeur de mon professeur. C'est quelqu'un d'éminemment simple et un très grand artiste qu'il ne faut pas rater.
Deuxième chronique de ce magazine touristique avec la maison musée du Royan. C'est véritablement la mémoire de Rochechinard qui est consignée dans cette maison aux 2000 objets. Et c'est en compagnie de Alain Derbier, que nous arpentons les différentes pièces de cette maison patrimoniale à Rochechinard, actuellement ouverte pratiquement tous les jours, de 15h à 19h, sauf le lundi. Donc, troisième chronique de ce parcours dans la maison de Rochechinard, maison-musée. Chronique touristique à la maison-musée du Royan à Rochechinard. Découverte de l'exposition permanente avec Alain Derbier.
Alors nous entrons maintenant dans la troisième pièce, qui aurait pu être la troisième pièce d'une maison. Troisième pièce d'une maison, ici dans ce lieu, c'était un presbytère. Donc ça veut dire un presbytère, ça veut dire le lieu du curé. Si on ouvre cette porte, cette grande salle, eh bien on s'aperçoit qu'elle est pile en face de la porte de l'église. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, avant 1789, lorsque la messe était terminée, le curé sortait, suivi du consul, qui était le maire de l'époque, et des consuls, traversait d'abord le cimetière qui était autour de l'église, mais c'était dans toutes les paroisses comme ça, pas plus ici qu'ailleurs, hein, partout pareil. Ensuite, traversait le jardin de monsieur le curé pour monter ses escaliers, arriver dans cette pièce où il y avait très certainement un grand bureau, une grande table où étaient couchés les registres paroissiaux qui inscrivaient donc les naissances, les mariages, les enterrements, puis des livres de délibération aussi, qui étaient donc consignés. C'était ce qu'avait enregistré durant la semaine le prêtre ou ses archiprêtres ou ses vicaires, c'est dans le cas d'une grosse paroisse, et donc les consuls venaient approuver ces écrits. Donc cette pièce, très belle pièce par son plafond à écluseaux, ses fenêtres donnant sur jardin, ses petits escaliers, petit univers charmant, eh bien, ne reçoit jamais d'exposition d'objets anciens. jamais. Ça a été la pièce de la vie, ça reste la pièce de la vie. Cette année, nous avons eu la grande chance d'avoir l'association donc qui gère le musée aujourd'hui, se veut de respecter cette tradition de la fondation de ce lieu en 79, l'installation de première collection, que cette maison reçoive, cette pièce reçoive toujours une exposition de peintres ou d'artistes contemporains. Nous avons eu plus que du contemporain en juillet, puisqu'on avait venant du Sénégal le célèbre Bobo, qui s'inscrivait très très bien contre ces murs. On sentait, il parlait beaucoup de mémoire, de sol qui était imprimé dans ses toiles, de végétaux qui venaient. Eh bien, ça entrait très bien dans cette maison que l'on appelle aussi la maison de la mémoire. Donc, Bobo a été un moment très fort pour cette maison, ce Sénégalais. Et ensuite, nous avons reçu aussi un homme qui nous recevons encore, ces tableaux là sont sur les Simèzes. Cet homme aussi qui est bien sûr très marqué par le monde paysan, un monde de vacances et d'enfance pour lui. Donc ici, il s'est retrouvé très à l'aise et donc il a peint toute une série de tableaux parlant de ce monde campagnard, de ces paysages et aussi, eh bien comme ce tableau, c'est un homme qui a une soixantaine d'années. Ce tableau qu'il ne faut pas lire au premier degré, mais où l'on sent très très bien, je pense que les gens de son âge peuvent le lire, eh bien cette maison ancienne en ruine, la pauvre charrette qui est même sous le hangar écroulée, devant un tracteur, c'est les années 50, mais ce tracteur, ben, lui aussi il est fatigué, les ronces y poussent dessus, et par contre il est bousculé et entouré par les fameux ballots de paille qui sont la nouvelle agriculture en contradiction avec la charrette remplie de foin. Bien sûr, il ne faut pas lire ça comme un tableau représentant une époque, puisque comme disait quelqu'un hier au soir, le tracteur, ce n'est pas l'époque des bottes rondes. Hein.
À suivre cette chronique touristique à la maison-musée de Rochechinard, une visite commentée par Alain Derbier. Visite que nous poursuivrons cette fin de semaine avec Alain Derbier pour cette maison-musée du Royan à Rochechinard dans l'ancien presbytère, je vous le rappelle, ouverte tous les jours actuellement de 15h à 19h, sauf le lundi, des visites guidées avec un prix modique. Nous refermons ce magazine touristique et cet agenda avec l'annonce de nos partenaires, le musée de l'eau de Pont-à-Royan, le Grand Séchoir, la maison du Pays de la Noix à Vinay, la maison-musée du Royan à Rochechinard, le mémorial de la résistance à Vassieux-en-Vercors, le musée de la préhistoire du Vercors et le musée de la résistance à Vassieux, le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône, la grotte de Taïs et le Batoirou à Saint-Nazaire-en-Royan, la grotte de Chouranche, le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye, le festival des chapelles en Royan-Vercors, l'office de tourisme Vercors-Drôme et ses trois antennes et le site Indians Valley à Bourgard-Barré. Merci à Jean-Daniel Laforêt, merci aussi à Géraldine Koziak pour la participation de cette nouvelle exposition dans le cadre de l'été à la Maison-Musée de Rochechinard jusqu'au 3 septembre. Prochain magazine, bien demain, jeudi, nous serons à la grotte de Chouranche.